Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Nouvel incendie à l'école catholique de Saint-Louis ce matin. Plusieurs salles ont été détruites. Une plainte a été déposée. L'actualité politique, vous retrouverez dans ce journal la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Le début des enseignements pour le rassemblement des jeunes athénées. Ils vont porter toute la semaine sur le thème de l'espérance. Le navire des activistes pro-Gaza intercepté par la marine israélienne. Rima Hassan et Greta Thunberg vont être renvoyés dans leur pays. Un rassemblement nationaliste pour fêter la victoire aux européennes il y a un an. Le Rassemblement national réaffirme ses ambitions pour l'Elysée. Et puis en sport du cyclisme, avec le critérium du Dauphiné, l'Italien Milan décroche sa première victoire en professionnel et prend la tête du classement général devant les Cadors. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ses titres, un regard sur le magazine citoyen qui suivra ce journal. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Un magazine citoyen sur le thème aujourd'hui de la déconstruction.
Oui, après les destructions d'entreprises et de bâtiments publics lors des émeutes de l'an dernier, les travaux de déconstruction ont débuté, vous le savez. Mais alors, comment cela se passe-t-il? Quelles sont les règles, les processus, les délais? Nous en parlerons avec Franck Olivier, directeur de l'entreprise Démolition Désamiante à Gennecey, de Nadir Boufnèche et Patrick Bellinguez du cluster Acotred et de Laurent Jandot, directeur du groupe Jandot. Citoyen, c'est donc à retrouver juste après votre journal.
L'école catholique de Saint-Louis a donc de nouveau été ciblée après l'incendie qui avait endommagé hier une pièce de stockage. Ce sont plusieurs salles qui ont été détruites par un nouvel incendie ce matin, Nicolas.
Oui, hier, les pompiers étaient rapidement intervenus pour circonscrire l'incendie. Ce matin, il a été beaucoup plus conséquent. Le directeur de la DEC, accompagné des gendarmes, a été témoin d'ailleurs de cet incendie. Il était venu en fait sur place pour faire un état des lieux des dégâts de la veille. Le récit de Manuel Van Arscott, le directeur de la DEC.
Ce matin, je suis allé à l'école de Saint-Louis uniquement pour prendre connaissance, faire des photos des exactions de la veille. J'ai dû rentrer accroupi dans une salle administrative pour pouvoir aller voir ce qui se passait, tellement il y avait de nuages noirs, toxiques. Seulement à mon arrivée, il y a un individu qui s'est enfui au lointain et j'ai pu constater un début d'incendie dans le bureau de l'administration. Comment dire, avec des flammes qui faisaient déjà un mètre. Voilà. Donc, je suis juste rentré pour essayer d'éteindre l'incendie. Moi, j'ai pas pu y rester. Des gendarmes m'accompagnaient depuis le verrou nord. Donc, on s'est plutôt retiré. On a appelé les pompiers. Sûrement qu'un accélérant avait été utilisé parce que le feu s'est propagé dans la pièce vraiment très, très rapidement.
Manuel Van Arscott avait tenu à maintenir cette structure de proximité dans la tribu de Saint-Louis à la rentrée dernière. C'est donc la déception qui prédomine ce midi.
Je suis un peu, on va dire, chagriné. C'est un peu plus fort que ça, mais. Voilà une école qu'on me conseillait de fermer à la rentrée scolaire parce que dans tel lieu géographique, ça pourrait poser problème. J'ai réouvert, moi personnellement, j'ai insisté pour que cette école réouvre. Cette année, j'avais pris la tâche des coutumiers, de la directrice, des parents d'élèves qui m'avaient sollicité. Quasiment aucun incident s'est produit. Et puis là, des incendies qui ravagent notre lieu de travail. Voilà, c'est désolant, je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne vais pas dire que c'est un constat d'échec. Pour l'Église, nous sommes dans une année d'espérance jubilaire, donc on va y croire. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça atteint surtout les petits. Du matériel a été brûlé, voilà, du matériel qu'ils utilisaient eux, qui était stocké dans les bureaux administratifs. C'est désolant surtout pour les petits.
Le directeur de la DEC a déposé des plaintes pour les deux incendies. Les enfants de Saint-Louis seront scolarisés dans la DEC, mais une étude de l'état de la charpente sera nécessaire avant d'accueillir à nouveau les élèves à la rentrée.
L'actualité judiciaire avec le procès en appel aujourd'hui d'Eli Païta. L'homme de 33 ans a été condamné le 15 avril dernier à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 fermes, pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Ce n'est pas sa culpabilité qui est remise en cause dans ce procès en appel, mais la peine fixée en première instance. On retrouve au palais de justice Charlotte Coulson.
Oui, les faits remontent au 3 juin 2024 dans un contexte insurrectionnel. La RT1 au niveau du col de la Pirogue et de la tribu de Saint-Laurent est souvent bloquée par les barrages des émeutiers. Trois gendarmes en civil circulent à bord d'une voiture de location. Ils reviennent de Nouméa et traversent le col. Au niveau de la tribu, ils sont alors poursuivis par un pick-up conduit par Eli Païta qui percute par l'arrière la voiture des gendarmes. On suit un échange de tirs au cours duquel Eli Païta et son cousin Lionel Païta sont touchés. Ce dernier succombera à ses blessures quelques jours plus tard. Eli Païta est blessé au bras. Sa culpabilité pour les faits de violence dans l'affaire a été décidée le 15 avril dernier. Elle n'est pas remise en cause, même si le prévenu soutient avoir perdu le contrôle du véhicule au moment de la collision par l'arrière. Le procès en appel concerne donc la peine fixée. Le parquet requiert 30 mois d'emprisonnement, dont 12 mois ferme, au lieu des 18 mois décidés en première instance. Eddie Païta, père de deux enfants sans activité, est placé sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril. Il ne s'est pas exprimé lors du procès en appel. Le jugement sera rendu le 22 juillet prochain. Autre affaire jugée aujourd'hui au tribunal de Nouméa, le vol en réunion au magasin Rôti de Normandie commis le 6 juin dernier. Trois hommes ont pénétré dans le commerce avec une barre en fer et des pierres à la main. Ils menacent clients et propriétaires avant d'arracher rapidement la caisse enregistreuse du magasin et volent plus de 239 000 francs et 73 cartes téléphoniques. Grâce à un important dispositif de la police nationale, deux jeunes hommes ont été interpellés, âgés de 18 et 19 ans. Ils comparaissent en ce moment devant le tribunal. Tous deux sont en situation de récidive, dont l'un en sursis probatoire. On voit bien que les mesures d'accompagnement et de surveillance sont vaines, selon le procureur de la République, qui requiert pour chacun d'eux la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme, la révocation du sursis probatoire, le maintien en détention et l'interdiction de porter une arme pour 5 ans. En direct du tribunal de Nouméa, Charlotte Coulson, Radio Rythme Bleu.
Au chapitre des faits divers, un incendie s'est déclaré ce matin vers 10h dans le local des archives de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie. 3 camions de pompiers étaient sur place, accompagnés par des fourgons de police qui ont bloqué la rue de la République. Écoutez le major Prats, chef de groupe des sapeurs-pompiers de Nouméa.
On a eu un départ de feu dans les faux plafonds suite à un problème électrique. Donc l'ensemble du bâtiment a été évacué par le personnel responsable. Et nous, on est intervenus pour constater des dégâts et procéder à nos vérifications. Au moment du sinistre, 24 occupants. L'ensemble du personnel a été évacué sans panique et on recense aucun blessé. Le feu a été maîtrisé par des bons réflexes du personnel au moyen d'un extincteur. Nous avons juste constaté qu'effectivement, au moyen de la caméra thermique, l'ensemble du sinistre était bien éteint et qu'au niveau de la détection du monoxyde de carbone, les gens pouvaient réintégrer leur poste de travail.
Une fois que les employés ont réintégré leur poste de travail, la circulation rue de la République a été rétablie. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. La suite de ce journal à 11h37, c'est avec la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, exceptionnellement diffusée un mardi, puisqu'hier, lundi de Pentecôte, était un jour férié.
Ça ne va pas fort pour Manuel Valls. Alors qu'il a dû constater l'échec des discussions de Deva, alors que le président de la République annonce vouloir reprendre la main dans le dossier calédonien, alors qu'il se croit obligé de se justifier sur tous les médias métropolitains, le seul renfort qu'il ait trouvé, c'est celui de Philippe Gomès. Mais au moins, celui-ci ne ménage pas ses efforts et il ne fait pas dans la dentelle. Quand Manuel Valls se déclare que c'est un accord ou le chaos, voire un accord ou l'explosion sociale et économique, le leader de Calédonie Ensemble va encore plus loin en affirmant que c'est un accord ou la mort. Et il le fait au travers d'une laborieuse anaphore qui prétend qu'un non-accord, c'est la tombe du pays, la tombe politique, la tombe économique, la tombe sociale, la tombe du vivre ensemble, la tombe du lien avec la France. Fermez le banc, une comparaison macabre qui traduit l'état d'esprit lugubre de son auteur. Il faut dire qu'il attend pour le 1er juillet un jugement délicat dans une sombre affaire d'emploi fictif. Et il ne trompe personne en affirmant, avec son habituelle forfanterie, être d'une sérénité absolue. Mais en attendant, il fait le job pour Manuel Valls. Il affirme que le ministre des Outre-mer n'est absolument pas désavoué par le président de la République. Et surtout, il fait le service après-vente de sa solution d'indépendance association. Il se réjouit d'ailleurs que les indépendantistes acceptent de continuer à discuter sur cette base, comme si ce n'était pas inquiétant justement que le FLNKS accepte comme socle la souveraineté avec la France proposée par le ministre des Outre-mer. Le leader de Calédonie Ensemble reprend aussi à son compte la tarte à la crème de la radicalité utilisée aussi bien par Manuel Valls que par Marine Le Pen pour tenter de discréditer leurs adversaires en renvoyant dos à dos la violence destructrice de l'UCCCAT et les appels au respect de la démocratie des partisans de la France. Philippe Gomès confirme également qu'il ne se présentera plus à une élection après la fin de ce mandat provincial à durée indéterminée. Mais il ajoute qu'il gardera sa capacité à s'exprimer. Et nous n'en doutons pas de la part de ce bavard impénitent. C'est d'ailleurs un point commun qu'on lui découvre avec Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer n'arrête pas de parler. Il est partout ces derniers jours. Dans la presse écrite, à la télé, à la radio et partout, il répète ses éléments de langage pour affirmer qu'il faut un accord politique en Nouvelle-Calédonie et qu'il a trouvé la solution. Il reconnaît un échec à Deva, mais il affirme que le fil du dialogue n'est pas rompu. Et il ajoute que lui, Il ne se laisse pas influencer par les propos d'Estrade, tout en taclant à chaque fois les partisans de la France. Il faut dire qu'il a toutes les peines du monde, et pour cause, à expliquer aux journalistes métropolitains ce que c'est que la souveraineté avec la France, cette voie de conciliation qu'il aurait trouvée entre la pleine souveraineté et la volonté de rester français. Mais les journalistes métropolitains se font en revanche un malin plaisir de lui rappeler les propos qu'il tenait en novembre 2024 dans Le Parisien, quand il accusait Emmanuel Macron d'avoir mis à terre 36 années de dialogue et de progrès en Nouvelle-Calédonie et qu'il dénonçait l'entêtement imbécile, irresponsable et criminel d'un président de la République mal entouré et mal conseillé sur le dossier calédonien. « Je n'étais pas encore ministre », se défend Manuel Valls. Ben, on espère pour lui qu'Emmanuel Macron n'est pas rancunier.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet rrb.nc. À retrouver aussi, si vous voulez la réentendre, ce sera cet après-midi après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Selon vous, la Nouvelle-Calédonie est-elle en train de redevenir un enjeu de politique nationale? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h41. Une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie. Nous irons notamment prendre des nouvelles du rassemblement des jeunes qui a commencé sur l'hippodrome de Bourail.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
On commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À Bourail, c'est aujourd'hui le premier jour du rassemblement Téné 2025 auquel participent plus de 700 jeunes venus des trois provinces qui sont arrivés sur le site hier. Chaque matin jusqu'à vendredi, ils vont recevoir un enseignement autour du thème général « L'espérance ne déçoit pas ». Ce matin, c'est le diacre Jean-Bernard Robert Trager qui a pris la parole devant eux sous le sous-thème « Soyons signe d'espérance ».
C'est sur le thème d'être dans l'espérance, de vivre l'espérance. Oui. L'espérance qui ne déçoit pas. Voilà.
Et comment est-ce que vous l'avez décliné?
Ah ben, j'ai d'abord leur expliqué ce que c'est que le mot espérance, qu'est-ce que c'est qu'être un signe, voilà, c'est surtout ça, et comment dans le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, on doit être dans l'espérance et être signe d'espérance pour pas tomber dans la désespérance. S'ils comprennent, tant mieux, s'ils comprennent pas, le Saint-Esprit fera le nécessaire.
Un thème qui a suscité l'attention des jeunes présents dans les différents groupes de travail.
Perken s'est ordonné le 8 décembre 2023. Et jusqu'au 9 décembre, les travaux ont toujours continué jusqu'au 10 à accueillir tout le monde. Et genre, pour moi, en tout cas, ça a toujours été un signe d'espérance parce que mes tantes ont toujours gardé foi en ce qu'elles font et tout. Et genre, c'était beau à voir parce que, comme on dit, la foi fait déplacer des montagnes. Eux, par leur foi, elles ont monté des murs.
Alors, qu'est-ce que tu as appris ce matin de ce qui a été dit par le diacre?
La différence entre espérance et espoir. Il a parlé de la vertu, les trois vertus théologales, la charité, la foi et l'espérance. Après, il a parlé d'histoire personnelle. Il est parti faire des pèlerinages. Les vertus, je connaissais pas, et puis son histoire est drôle un peu.
Par la différence entre l'espoir et l'espérance, et les trois vertus, qu'il faut toujours avoir confiance en Dieu, avoir l'espérance en Dieu que l'espérance humaine. Par exemple, le fait qu'il y ait des personnes qui m'ont beaucoup déçu, alors que Dieu, lui, m'a jamais déçu.
Des propos recueillis par Kéline Daboiscou. L'après-midi, les jeunes sont répartis dans des ateliers. Ils peuvent choisir soit de préparer la veillée et la messe du lendemain, soit de se consacrer à l'étude biblique 2.0 ou encore aux œuvres de miséricorde. Une voiture disponible en un clic, c'est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Vous avez peut-être aperçu des véhicules électriques estampillés d'un logo orange roulés un peu partout dans Nouméa ces derniers temps. Il s'agit tout simplement de voitures proposées en libre service via une application baptisée Papa, Eliana Colombo.
Oui, voilà un mois que le service a été lancé sur le territoire et il a déjà trouvé ses adeptes. Plus de 100 clients ont testé le service en l'espace de 15 jours. Le principe est simple, tout passe par l'application. Vous vous inscrivez avec votre permis de conduire, vous réservez un véhicule qui se trouve à proximité de votre emplacement et vous déverrouillez la voiture, le tout avec votre smartphone. Pour le moment, une vingtaine de véhicules, tous 100% électriques, sont disponibles en libre service, mais le groupe SLK Mobility, qui est derrière le concept, envisage d'étendre son parc automobile en fonction de la demande. Pour une simple course ou pour un trajet jusqu'à l'aéroport, les usages sont nombreux, explique Pierre Kraft, gérant du groupe SLK Mobility.
Le profil des gens sont des gens qui soit ne sont pas propriétaires de véhicules, soit à l'instant n'ont pas de véhicule, hein, puisqu'il faut un besoin de mobilité. Et on va rentrer dans une typologie assez jeune. On a des gens qui l'utilisent régulièrement. Ils ont compris l'intérêt de la solution. Ils utilisent le véhicule quand ils en ont besoin. Alors, on voit des petites courses à 500 francs, on voit des courses à 1000 francs. Et puis, certains l'utilisent un petit peu plus. Donc dans ce cas-là, effectivement, le prix de la course augmente. Mais pour vous donner le cas d'usage, j'étais à Nouméa, au port, donc au centre-ville. J'ai pris un véhicule, je suis allé chez mon coiffeur qui est à Ducos, je me suis arrêté à Ducos, donc j'ai verrouillé effectivement provisoirement la voiture pendant que j'étais chez le coiffeur, je suis rentré à Nouméa, je suis parti près d'une heure, tout ça m'est revenu à 1400 francs.
Ce concept déjà répandu en métropole répond à un changement de mode de consommation des usagers de la route. Si avant posséder son propre véhicule était une étape logique dans la vie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La mode est à la mobilité partagée pour des raisons écologiques mais aussi économiques, souligne Pierre Kraft.
Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs perturbations dans le monde de la mobilité. Alors d'abord, la Calédonie a vécu différentes crises, dont la dernière qui est très très forte. Aujourd'hui, acheter un véhicule, et on le voit malheureusement, le marché de l'automobile est effroyablement bas, compte tenu du fait que les gens n'ont plus ou les moyens ou plus envie, en tout cas des doutes sur l'acquisition d'un véhicule. Le deuxième phénomène qui intervient, c'est que aujourd'hui, les gens ne savent plus trop s'il faut acheter un véhicule thermique ou un véhicule électrique, quelle technologie pour demain. Et donc nous, on répond pleinement à cette problématique, c'est-à-dire que aujourd'hui pour se déplacer, il n'y a pas besoin d'être propriétaire d'un véhicule. Vous pouvez juste le demander à l'usage et utiliser le véhicule que vous voulez. Alors, comme on a un choix de véhicule, vous pouvez choisir la mobilité en fonction de votre besoin.
Papa, il se destine donc aux particuliers, mais pas uniquement. Les entreprises peuvent également bénéficier de ces locations en remplacement, par exemple, de leur véhicule de service. Toutes les informations et la marche à suivre sont à retrouver sur le site internet papaye.nc.
L'actualité dans la région et le sort des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée inquiètent l'UNICEF et le Conseil national des églises. Il faut dire que l'état des lieux de la situation de l'enfance en Papouasie est alarmant. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La représentante de l'UNICEF en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le docteur Vira Mendonca, a indiqué que dans un pays où le nombre des habitants est aujourd'hui estimé à plus de 12 millions, 43% de la population a moins de 18 ans. Elle a ajouté que la moitié des enfants souffrent de malnutrition, 85% sont victimes de violences au foyer, 40% des violences sexuelles impliquent des enfants, la couverture vaccinale est inférieure à 50% et l'enregistrement des naissances n'est que de 13%. Ces indicateurs sont inacceptables et nous devons agir de toute urgence, a-t-elle dit, sinon l'actuelle génération sera perdue. À son initiative, le Conseil national des Églises et l'UNICEF ont donc signé un protocole d'accord en vue de promouvoir la parentalité positive, d'améliorer la nutrition infantile, d'accroître la vaccination des enfants et l'enregistrement des naissances. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h49, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Jusqu'au 15 juin, célébrons la fête des pères comme il se doit et craquez pour le barbecue Titan à 49 990 francs seulement. Produits d'aménagement, barbecue, piscine ou encore végétaux, vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
Comment devenir le meilleur de tous les temps, en un mot, le GOAT des soirées cinéma? Étape 1, profitez de l'offre du moment Canal+, avec les plateformes Apple TV+, Max, Paramount+, et bien sûr, les 10 chaînes Canal+ incluses, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. Étape 2, à vous le cinéma ultra récent, le sport en direct et les séries exclusives sur votre télé, votre mobile ou votre tablette. Étape 3, plus aucun doute, vous êtes le GOAT des soirées cinéma. À vous le streaming Canal+, Apple TV+, Max et Paramount+, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. GOAT, le meilleur de tous les temps. Offre avec abonnement mensuel au tarif de 4000 francs par mois, valable jusqu'au 31 juillet et soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com ou en Canal+ Store.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Le voilier avec des militants pro-palestiniens qui voulaient rallier Gaza pour attirer l'attention sur la situation humanitaire interceptée par la marine israélienne. À son bord, la députée européenne Rima Hassan ou encore la militante Greta Thunberg et 10 autres personnes. Le bateau a été dérouté vers le port d'Ashdod en Israël et les militants devraient être expulsés vers leur pays d'origine. Frédéric Simon pour Europe 1.
Les autorités israéliennes ont confirmé que le voilier Madeleine mouillait désormais dans le port d'Ashdod. Dans le sud du pays, Rima Hassan, Greta Thunberg, elle est examinée par des équipes médicales avant d'être confiée à la police israélienne, qui sera elle chargée d'organiser leur expulsion vers leurs différents pays d'origine. La France, pour 6 d'entre eux. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a d'ailleurs exigé que les représentants consulaires puissent s'assurer de leur bien-être. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, envisageait un moment d'obliger les militants pro-palestiniens à visionner la vidéo des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023. Ce n'est plus le cas. Le visionnage de ce document ne leur est plus que suggéré. La nuit dernière, l'arraisonnement du voilier par les commandos marins israéliens s'est déroulé sans incident. Aucun blessé de part et d'autre. Les militants pro-palestiniens n'ont pas opposé de résistance. Les commandos avaient quant à eux reçu une consigne stricte, ne pas réagir aux éventuelles provocations des activistes.
En métropole, la France insoumise a organisé des manifestations de soutien à l'expédition pro-Gaza. 170 rassemblements qui ont attiré 150 000 personnes selon les organisateurs, dont 50 000 à Paris, place de la République. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole et comme il n'est pas connu pour faire dans la demi-mesure, le chef de la France insoumise a parlé d'actes de piraterie de la part des autorités israéliennes.
Nous sommes en train de parler de gens qui sont allés à main nue dans un petit bateau affronter un génocide et un blocus. Appelez les choses par leur nom. Madame Rima Hassan est députée du peuple français et par conséquent, vous ajoutez à l'acte de piraterie dans les eaux internationales l'acte de détention de quelqu'un qui bénéficie d'une immunité du fait de son statut de parlementaire.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Actualité à l'étranger, ce sont aussi ces affrontements à Los Angeles depuis plusieurs jours. Donald Trump a engagé la garde nationale, c'est-à-dire l'armée, contre des manifestants opposés à sa politique migratoire. Des scènes de pillage et de saccage ont eu lieu. La situation s'est un peu calmée, mais Donald Trump ne baisse pas le ton. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Le président s'est félicité tout à l'heure sur son réseau Truth Social d'avoir pris une excellente décision en envoyant l'armée hier face à des manifestants violents.
Les gens qui causent des problèmes sont des agitateurs professionnels et des insurgés. Ce sont de mauvaises personnes, elles devraient être en prison.
Depuis hier, ce sont au total 2000 membres de la garde nationale qui ont été déployés dans la région de Los Angeles face à ces manifestations parfois violentes. Une décision de Donald Trump qui passe mal alors que les autorités locales démocrates s'y opposent. Mais le président est passé outre, il pourrait même aller plus loin alors qu'il appelait à nouveau ce matin à un envoi de troupes sans que l'on sache s'il s'agit des réservistes de la garde nationale déjà déployés ou de soldats en service actif. Et il ne mâche pas ses mots sur ses réseaux. S'il crache, nous frappons et nous frapperons comme jamais auparavant. Avant a-t-il martelé en évoquant les manifestants. De son côté, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, accuse le président d'exploiter politiquement cette crise dans un bastion démocrate. Dans les rues de Los Angeles, la situation est un peu plus calme depuis ce matin. Il est un peu plus de 13 heures sur place. La nuit, par contre, a été agitée avec des affrontements entre manifestants et policiers, des scènes de pillage, de vandalisme. Les manifestations ont débuté vendredi pour protester contre les expulsions massives de migrants illégaux menées par des agents fédéraux. Et l'agence fédérale en charge de l'immigration assure qu'elles vont se poursuivre quotidiennement.
L'actualité en métropole et un an après sa victoire aux élections européennes, le Rassemblement national rassemblait ses troupes et organisait une fête de la victoire la nuit dernière dans le Loiret. Une grande réunion à laquelle étaient invités le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le Premier ministre italien Matteo Salvini. L'occasion pour Jordan Bardella, malgré l'épée de Damoclès judiciaire qui pèse sur Marine Le Pen dans sa quête de l'Élysée, d'affirmer que les mouvements nationalistes ont le vent en poupe.
Le vent tourne aujourd'hui partout sur le continent. Il tourne en Italie, en Pologne, en Slovaquie, au Portugal, aux Pays-Bas. Et bientôt, j'en ai la certitude, ce vent soufflera sur la France.
Et comme elle le fait à chaque prise de parole, Marine Le Pen a surtout visé de son côté Emmanuel Macron dans son intervention.
Qui peut croire sérieusement que la France d'Emmanuel Macron pourrait mener une guerre d'ampleur quand il est déjà incapable de gérer le chaos qui règne les soirs de match à 200 mètres de l'Élysée?
Ce rassemblement est une démonstration de force, de solidarité et de but commun pour une nouvelle Europe fondée sur la souveraineté, l'identité et la liberté, ont martelé les responsables du Rassemblement national. À Bordeaux, un conducteur de bus convoqué par sa direction pour un possible licenciement. C'est pourtant lui qui avait été agressé et roué de coups par un passager auquel il avait fait une remarque sur son manque de politesse. Le récit de Stéphane Place pour Europe 1.
Jean-Christophe Colombo a été agressé il y a un mois. Au volant de son bus de ville, ce conducteur salue un passager d'une vingtaine d'années en train de monter. Un bonjour qui reste sans réponse. Le chauffeur insiste auprès de ce voyageur qui n'apprécie pas. Les insultes pleuvent. Jean-Christophe Colombo lui demande alors de sortir du véhicule.
Je suis resté dans le bus, mais je suis allé à la porte du milieu. Je l'ai réinvité à descendre. Il m'a donné deux uppercuts, un coup de boule qui m'a envoyé valdinguer à 5 mètres en arrière. J'ai eu une rupture de deux ligaments de l'épaule et un troisième abîmé.
Et il y a quelques jours, Jean-Christophe Colombo, 52 ans, 28 ans de service, délégué syndical, découvre qu'il est convoqué par sa direction.
Une lettre recommandée et une lettre simple de mon entreprise me convoquant en entretien préalable pouvant déboucher jusqu'au licenciement. On me reproche d'avoir quitté mon poste de conduite et moi, mon poste de travail, c'est le bus, c'est pas que le volant. Je suis maître à bord et je suis censé pouvoir régler tous les problèmes à bord. Ça m'a fracassé parce que je m'y attendais pas.
De son côté, Keolis Bordeaux Métropole précise qu'un échange formalisé avec notre collègue a été engagé, ne remettant en aucun cas en cause son statut de victime. L'objectif est clair, prévenir de nouvelles agressions, insiste l'entreprise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
On va refermer ce journal dans un instant après la dernière pause par l'actualité sportive. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le jeudi du centre-ville aux couleurs de Wallis et Futuna est de retour ce jeudi 12 juin sur la place des Cocotiers. Cette année, les associations mettront à l'honneur le patrimoine et la culture de l'archipel. Retrouvez plus de 70 exposants qui vous feront découvrir leurs spécialités culinaires et l'artisanat traditionnel. Danse, chant, dégustation de plats typiques feront également partie du programme. Rendez-vous jeudi 12 juin de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va d'abord passer par les cyclismes avec la nuit prochaine, la troisième étape du Critérium du Dauphiné qui conduira les coureurs de Brioude à Charentonnet, Nicolas Legrand.
Oui, le peloton s'élancera de la ville natale de Romain Bardet. Je rappelle que le Français mettra un terme à sa carrière à l'issue de ce Critérium. C'est un profil assez casse-pattes pour l'étape du jour avec 5 côtes répertoriées. Je rappelle que la nuit dernière, c'est l'Italien Jonathan Milan qui a signé sa première victoire sur le Critérium et qui s'est emparé du maillot jaune de leader devant Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel.
Football pour signaler qu'on joue la qualification à la Coupe du Monde.
Oui, on retiendra que la Belgique a réussi à s'imposer 4 buts à 3 face au Pays de Galles. Les Diables Rouges qui ont fait de grosses erreurs défensives puisqu'ils menaient 3-0 à la demi-heure de jeu avant de se faire remonter au score pour finalement s'imposer 4-3 grâce à un but de Kevin De Bruyne à la 88e minute de jeu. Et puis sans surprise, l'Italie s'est relancée après sa défaite en Norvège. La Squadra Azzurra a gagné 2-0 contre la Moldavie.
Le tennis avec l'ATP 250 de Stuttgart et le Français Benjamin Bonzi a été sorti en 2-7, 6-4, 6-4 par le Tchèque Jiří Leheka. Giovanni Mpechi-Péricard se qualifie, lui, pour le deuxième tour en battant le Russe Roman Safiulin en 3-7.